BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Mon interview ce soir, c'est Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad. Bonjour Thomas Reynaud.
Bonsoir Edwige.
Bonsoir, bonjour. Il fait encore beau, autant en profiter, c'est la rentrée. Iliad, c'est free bien sûr. Vous avez publié vos résultats semestriels. Vous avez affiché et confirmé vos ambitions des milliards de chiffre d'affaires pour 2024. Vous avez aussi parlé de votre accord avec DAZN dans le football, avec beaucoup qui, pour la Ligue 1, beaucoup qui se demandent si le football français a de l'avenir suite à cet accord. Vous nous direz si vous y croyez. Et puis surtout, Iliad qui rentre dans le top 5 européen. Donc ça veut dire que belle réussite. D'abord une question, parce qu'on est tous absolument fascinés par cette histoire, cette arrestation de Paul Durov, le patron de Telegram. On dit que c'était un proche de Xavier Niel. Donc quand il a été arrêté au Bourget, il aurait dit qu'on prévienne tout de suite Xavier Niel. Est-ce que c'est vrai? Vous confirmez? Est-ce que vous-même vous le connaissez?
Ah, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je ne connais pas le fond du sujet sur Telegram. Ce que l'on voit et ce qui est en train de se jouer autour de cette question et de ces grandes plateformes numériques, de ces grandes messageries, c'est comment on trouve le juste équilibre entre trois principes qui sont essentiels. La liberté d'expression, le respect de la vie privée, de nos données privées. Et parfois, il peut y avoir une certaine forme d'opacité. Et enfin, la lutte contre la circulation des contenus illicites. C'est voilà ce qui se joue
Est-ce que vous estimez, vous, on connaît les positions assez libertaires, on va dire, de Xavier Niel, le fondateur d'Iliad et de Free. Est-ce que vous estimez que Telegram a franchi, justement, les limites de ces trois points que vous décrivez? Parce que vous avez raison, c'est là où ça se joue. Et du reste, on voit bien que la justice lui reproche ces faits-là.
Encore, je ne connais pas le fond du dossier. Ce que je crois comprendre, c'est qu'on reproche un manque de modération et de coopération avec les autorités judiciaires. Moi, ce que je constate, et je parle en tant que patron...
Complicité de délits et de crimes qui s'organisent sur la plateforme. Ça va loin.
Écoutez, la réponse, elle est double. Elle est d'une part législative, et c'est le législateur qui doit définir les règles du jeu. Quelque part, c'est ce qui a été fait par exemple sur les questions de piratage avec la loi audiovisuelle en France de 2021. C'est ce qui a été fait en 2023 par la Commission européenne et cette fameuse directive DSA, Digital Service Agreement, pour essayer d'encadrer cette grande plateforme. Et je crois qu'il y a un débat concernant Telegram, c'est savoir est-ce que Telegram rentre dans la réglementation européenne contre
le Telegram. Vous, Thomas Reynaud, ça fait tellement longtemps que vous êtes dans le télécom. Qu'est-ce que vous en pensez?
De cette arrestation, il faudrait connaître exactement le fond.
Oui, mais est-ce que Telegram va trop loin? Est-ce que vous trouvez que, effectivement, il faut faire comme font d'autres plateformes, qu'il y ait une espèce de collaboration quand même, pour que
Ce qui doit être fait, c'est respecter la loi. Concernant cette mise en examen, il faut rappeler qu'une mise en examen n'est pas une condamnation. Okay.
Est-ce que c'est effectivement un proche de Xavier Niel, puisqu'il a demandé donc d'appeler tout de suite Xavier Niel? Est-ce que c'est un proche? Est-ce que c'est Xavier Niel qui a mis en contact avec Emmanuel Macron, entre géants de la tech? Ils se connaissent forcément, non?
Alors, ils se connaissent, oui, j'imagine. Xavier Niel connaît un certain nombre de patrons, de grands géants de la tech, américains, chinois, russes, en l'occurrence, mais j'ai pas plus d'informations sur le sujet.
Alors, revenons, on parlera foot après quand même. On va quand même parler des télécoms avec Iliad, donc dans le top 5 européen, parce que maintenant, il y a la France, bien sûr, mais il y a l'Italie, il y a la Suède, la Pologne essentielle et la Pologne. Tiens, est-ce qu'il y aura le Portugal? Est-ce que le Portugal, ça peut faire partie de
pas
vos
court
intérêts?
Terme. Mais et nous
et le court
présents...
terme, vous le mettez où, le court terme?
Parce qu'on sait que
Portugal Telecom, qui appartient donc au groupe Altice, est à vendre. Est-ce que ça vous intéresse ou pas?
À court terme, non. On a regardé le dossier et on a décidé de le refermer. Aujourd'hui, on est présent dans 8 pays européens. Vous avez mentionné la France, la Pologne, l'Italie, la Suède, les pays baltes aussi. Et on a 60 millions d'abonnés, ce qui représente à peu près 13% de la population européenne qui utilise chaque jour nos réseaux. Et donc, ce matin, on a franchi une étape importante. On rentre dans le top 5 européen. On est en période olympique. Quand on rentre dans le top 5, on regarde le podium.
D'accord. Donc pas d'autres croissances externes.
Comme à très court terme, non. On se concentre.
Attendez, on est passé du court terme au très court terme. Donc à moyen terme, alors. si vous voulez.
Oui, peut-être, c'est envisageable. Aujourd'hui, c'est quoi notre stratégie de croissance? C'est de continuer à gagner des parts de marché dans tous les pays où on est présent. C'est aller vers des nouveaux métiers, on en parlera peut-être. Le cloud, les data centers, on a des initiatives très importantes autour de l'intelligence artificielle. La connectivité des entreprises, et on sait que ça, que c'est un enjeu de compétitivité pour notre économie. Et enfin, une expansion géographique, si cela a du sens.
D'accord, on a compris. Alors, le 60 millions d'abonnés, c'est quand même une étape importante qui est franchie. En France, vous êtes à combien ?
En France, on a 23 millions d'abonnés, ouais. Ce qui fait un Français sur trois qui nous fait confiance, à la fois des abonnés sur le mobile, sur le fixe, et depuis deux ans, on gagne des parts de marché parce qu'on reste fidèle à notre promesse d'innovation. On l'a vu, on a lancé une nouvelle Freebox en début d'année. Et puis aussi, promesse en termes de pouvoir d'achat. Et on sait que le pouvoir d'achat, c'est un sujet important. C'est le sujet numéro un de préoccupation des Français aujourd'hui.
Et vous n'avez pas augmenté vos prix, on disait, depuis deux quinquennats, c'est ça ?
C'est ça. Et ouais. Même, on est allé même plus loin parce qu'on s'est engagé pour le troisième quinquennat. On est le seul opérateur à ne pas augmenter nos prix. Et on a décidé, jusqu'en 2027, de ne pas toucher au tarif de nos deux forfaits mobiles, 2,19€. C'est un engagement fort qui nous oblige à être performants dans notre organisation et que l'on tiendra vis-à-vis de nos 23 millions d'abonnés.
Puisque vous abordez ce problème de quinquennat, juste une question. Est-ce que votre écosystème, est-ce que l'écosystème tech est inquiet de cette instabilité politique qu'on connaît en France ?
Alors moi, je suis optimiste, donc je pourrais participer à une morosité ambiante, surtout qu'on voit que la France vient donner le meilleur d'elle-même avec ces Jeux Olympiques. Moi, j'ai deux convictions, je ferai juste deux remarques. Ce que l'on constate, c'est que les grandes réussites de l'économie française sur les 10, 20, 30 dernières années, elles ont été le fruit d'un consensus politique. L'aménagement du territoire avec le TGV, l'industrie aéronautique, plus récemment la fibre optique. On voit quand il n'y a pas eu de consensus politique, la catastrophe que ça a pu être, par exemple, sur le nucléaire, sur l'industrie du nucléaire dans les années 2010. Et ma deuxième conviction, c'est que lorsque vous voulez investir massivement, dans les infrastructures, et c'est le cas avec la fibre optique, c'est le premier chantier de France, un investissement colossal de 40 milliards d'euros, essentiellement porté par des fonds privés. On doit connaître les règles du jeu, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue réglementaire, et on a besoin de stabilité.
Thomas Reynaud, si on revient à votre politique, évidemment politique tarifaire, c'est ça qui a joué, notamment avec le succès de la Freebox que vous avez lancée en janvier. Vous avez deux forfaits, donc vous vous engagez jusqu'en 2027 à ne pas augmenter les prix. Mais dans ces cas-là, comment est-ce que vous faites pour maintenir votre politique d'investissement ?
Alors, on continue.
Où est-ce que vous dégagez de l'argent ?
On continue à gagner des parts de marché importantes. On est une société rentable. On a vu que la performance économique était largement au rendez-vous. Cette année, on va dégager une capacité d'investissement de plus de 2 milliards d'euros. Et faire mieux ne coûte pas nécessairement plus cher. On a pris des décisions extrêmement fortes, par exemple, d'internaliser toutes les fonctions clés au sein de l'entreprise. On a fait le pari de l'innovation. On est le seul opérateur télécom en Europe à concevoir nos propres Freebox. Donc on a fait des choix très différents du reste de l'industrie et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir ce que l'on appelle, dans la stratégie des entreprises, un avantage concurrentiel extrêmement fort. Le pari de l'innovation et puis aussi le pari de la satisfaction de nos abonnés avec cette politique tarifaire.
Aujourd'hui, hasard du calendrier, je ne sais pas, mais en tous les cas, on a vu que SFR a publié aussi ses résultats. Moins 343 000 abonnés mobiles en moins, moins 87 000 clients fixes en 3 mois. On sent que c'est très très difficile pour SFR. C'est quoi votre réaction par rapport à ça ? Comment vous expliquez ?
Moi, vous savez, je fais preuve d'humilité. À nombreuses reprises, on a sous-estimé.
Non, mais vous êtes un peu étonné par ces résultats quand même, cette publication.
Oui. Mais vous savez, quand je regarde l'histoire récente de notre groupe, à plusieurs reprises, on a sous-estimé Free. Lorsqu'on s'est lancé, lorsqu'on est parti d'une feuille blanche en 2012 sur Free Mobile, tout le monde a dit, ils vont se planter. Lorsqu'on s'est lancé en Italie, il y a 5 ans, tout le monde a dit, ils vont se planter. Donc la dernière erreur que je ne commettrai, c'est de sous-estimer un concurrent.
Oui, mais quand même, est-ce que ça vous interpelle dans le sens où vous vous dites, c'est peut-être le moment de cette fameuse consolidation française.
Je vais pas être hypocrite, Edwige.
Je vais pas être attristé
par ces résultats commerciaux. On est très heureux d'avoir d'excellents résultats et on vient prendre des abonnés à nos concurrents
et notamment
à SFR. Votre question, c'est est-ce que ça va déclencher une consolidation du marché français? Je n'y crois pas. À plusieurs reprises, on a essayé de consolider le marché français. À 7 ou 8 reprises, ça n'a jamais abouti et je ne pense plus que ce soit d'actualité. D'ailleurs, je ne pense pas que SFR soit à vendre, à ma connaissance.
C'est la question, si tout était à vendre, paraît-il, je ne sais plus maintenant. Donc pour vous, SFR n'est pas petit à petit en train de décliner et de se. Voilà, et de, à un moment d'être prête à être cueillie?
Non, je ne pense pas.
D'accord. Non, mais c'est intéressant de voir ce qui se passe. Alors, il y a deux points très importants aussi. Vous en avez parlé, c'est la révolution de l'IA, l'intelligence artificielle. Vous avez investi dans QTI, qui est un laboratoire de recherche, avec du RSCMA CGM. Vous avez aussi investi dans des data centers. Quand est-ce qu'on verra, nous, consommateurs, l'effet réel de l'intelligence artificielle?
Je pense qu'on la voit déjà parce qu'on a vraiment une révolution qui est à l'œuvre.
Oui, mais nous, consommateurs, moi je l'ai là-dessus, j'ai sur mon smartphone.
Vous utilisez peut-être ChatGPT, vous ne le savez pas, mais probablement pour améliorer les réponses que l'on vous apporte lorsque vous appelez le service abonné de Free, on peut s'appuyer sur des outils d'intelligence artificielle. Moi, j'ai vraiment la conviction très forte qu'on est à l'aube, c'est une révolution qui a d'ores et déjà commencé, qui va être extrêmement importante. Ça soulève des enjeux de compétitivité de nos entreprises, mais aussi des enjeux qui vont bien au-delà. Parce qu'à travers l'intelligence artificielle générative qui génère des contenus, qu'est-ce qui est en jeu? C'est notre imaginaire collectif, c'est notre façon de s'informer, de créer, d'innover. Et moi, j'ai la conviction que l'on a besoin d'une intelligence artificielle européenne. Ça nécessite des talents, de la puissance de calcul, ça nécessite aussi des financements et des initiatives privées. Et c'est exactement ce que l'on fait avec QTI, avec notre investissement de 2,5 milliards dans nos data centers et ou encore sur le cloud.
Ça va se transférer quand? Voilà, dans nos smartphones ou dans nos...
Oui, c'est déjà le cas.
Non, mais c'est déjà le cas. D'une manière se généraliser.
Samsung, par exemple, qui était un des sponsors des Jeux Olympiques, on les a pas mal vus en termes de promotion. Ils font la promotion de leur AI phone. Ça devient une réalité.
Tiens, il y a la conférence de sortie de l'iPhone 16. Je crois que c'est le 9 septembre chez Apple. Vous avez.
C'est le secret le mieux gardé.
Ouais. Vous-même, vous savez rien. Pas 30 milliards.
Vous
n'avez aucune information.
Aucune information.
Non, ça, c'est quand même assez incroyable. Sur les data centers, on a vu ce qu'avait fait SFR, donc c'est de vendre le 49% de ces data centers, de les financiariser. C'est quelque chose que vous pourriez faire parce qu'au total, vous en avez combien?
Aujourd'hui, on a 15 data centers répartis à Paris, Marseille, qui est un hub numérique très important. C'est le point de croisement de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, et à Varsovie. Et notre ambition, elle est à l'échelle de l'Europe. On souhaite investir 2,5 milliards d'euros, je l'ai dit, sur la prochaine décennie, parce qu'on fait face à une demande très forte, y compris en France, du fait de notre énergie décarbonée, de notre énergie nucléaire en France. Et on compte travailler avec un partenaire. On souhaite rester, bien évidemment, actionnaire de cette filiale et l'actionnaire de contrôle.
Mais donc vous cherchez un partenaire?
Ah oui, on souhaite travailler avec
un
des partenaires.
Un partenaire financier,
un partenaire industriel sur ce type de projet.
Oui, d'accord, ok. C'est une manière de bancariser.
Une manière d'accélérer, d'aller très vite et d'être au rendez-vous de cette révolution de l'intelligence artificielle.
D'accord. Votre objectif en termes de data center, c'est donc 15, c'est quoi dans... Parce que là, vous aviez un plan jusqu'à 2024, un plan stratégique.
On avait le plan d'ici 2024 qui a porté ses fruits.
Voilà.
Et on annoncera... dans les mois qui viennent, notre nouvelle odyssée à horizon 2030.
2030, d'accord, 2028. Mais il y aura quoi? Puisque vous êtes là avec nous, Thomas Reynaud, vous pouvez nous dire quels seront peut-être les deux révolutions.
Aujourd'hui, on est présent dans 8 pays européens. Mmh. Demain, on souhaite être présent dans d'autres pays, si des opérations se présentent. On souhaite surtout continuer à gagner des parts de marché dans nos 8 pays existants. Et enfin, aller vers des nouveaux métiers. On a pris un virage très important il y a 3 ans, qui est la connectivité à destination des entreprises, le cloud, l'intelligence artificielle. Sur ces 3 métiers-là, nous souhaitons accélérer. On a d'ores et déjà, sur les métiers du cloud, la puissance de calcul en Europe la plus importante. On souhaite développer encore plus cette puissance de calcul. On a aujourd'hui plus de 150 entreprises qui sont clientes de nos solutions, des géants de la tech américains, chinois, des organismes publics ou parapublics, des grandes entreprises, des fleurons de l'industrie. Et pour nous, c'est un relais de croissance très important.
Justement, qu'est-ce que vous proposez pour l'IA? Qu'est-ce que vous allez proposer? Vous proposez déjà aux entreprises et aux petites entreprises?
Alors aujourd'hui, ce que l'on propose aux sociétés d'intelligence artificielle, je vais vous prendre deux exemples, Photoroom ou The Edge Company qui vient de lever 200 millions d'euros, on leur met à disposition notre puissance de calcul pour leur permettre de créer et d'entraîner leur modèle d'intelligence artificielle. C'est ce que l'on a mis aussi à disposition de QTI, le laboratoire de recherche indépendant. On a mis à disposition notre puissance de calcul pour qu'ils développent Mochi, qui est cette intelligence artificielle générative, vocale, qui est totalement unique.
Oui, absolument, il faut essayer. Tiens, votre calculateur, c'est avec NVIDIA. Vous avez vu hier, les résultats d'NVIDIA, mais surtout, c'est une histoire absolument incroyable dans le capitalisme de la tech, mais pas que tech, dans le capitalisme mondial. Qu'est-ce que ça vous inspire, NVIDIA? Vous êtes actionnaire, vous, d'NVIDIA?
Non. On n'est pas actionnaire, mais nous sommes partenaires de référence en Europe de NVIDIA depuis plusieurs années. On est un des premiers clients de NVIDIA lorsqu'on a mis en place cette puissance de calcul, ce super calculateur qui s'appelle Nabu en 2023. On a commandé, justement du fait de la très forte demande des start-up européennes qui se positionnent sur ces questions d'IA, des puces supplémentaires, plusieurs clusters supplémentaires, et c'est ce qui explique les investissements importants qui ont été réalisés au premier semestre. Et quand on voit les résultats d'NVIDIA qui ont été annoncés hier, en effet, c'est impressionnant. Ils ont multiplié par 3 sur les 18 derniers mois leur chiffre d'affaires, et ils sont partis pour réaliser plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
Il n'y a pas un château de cartes, non? Il n'y a pas un château de cartes à terme?
Ah non, il y a une réalité économique. Non, 2024, c'est 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires.
Vous pourriez tenter par les États-Unis, parce qu'on a vu que les entreprises, ça va être une de vos priorités de ce nouvel Odyssée 2030. L'international, est-ce que les États-Unis, ça peut faire partie de votre nouveau champ d'investigation?
La priorité du groupe Iliad, c'est l'Europe.
D'accord.
Nous sommes un opérateur télécom européen.
On peut parler foot quand même, le foot français qui est menacé de piratage après cet accord entre Canal, enfin la Ligue 1 évidemment, Vincent Brune, et avec DAZN, la première plateforme de streaming sportif diffuseur de cette ligue. Et vous-même, vous êtes associé en fait à DAZN. D'abord, sur en termes de piratage, est-ce que vous avez observé effectivement, puisque c'est à vous qu'on demande ensuite de désactiver, est-ce que vous avez observé beaucoup de piratage?
Alors, en l'occurrence, là, ce qui avait été demandé, c'était aux plateformes et aux messageries. Non, sur la question du piratage, j'ai envie de vous dire que la meilleure des solutions...
Est-ce que vous avez pu observer, vous?
Directement sur notre réseau, oui, on a eu des demandes pour bloquer des sites, des demandes qui sont totalement encadrées par la loi, soit sur réquisition judiciaire ou soit sur décision de l'ARCOM. Il y a une décision, dans le cas de la loi audiovisuelle, il y a des procédures accélérées pour désactiver...
Mais est-ce que vous voyez du piratage? C'était ça ma question primaire.
Oui, on en a vu, bien évidemment. Et comme les autres opérateurs, on agit sur demande.
Oui, bien sûr, c'est lié à cet accord avec un coût quand même très élevé.
Je souhaite le succès de DAZN, vous l'avez dit, qui est la première plateforme mondiale de streaming sportif.
Très cher.
Parce que derrière ce succès, ce qui est en jeu, c'est le financement du football français. Pas seulement les 18 clubs de Ligue 1, mais aussi le foot amateur. Et c'est très important.
C'est tellement cher que...
Une des façons de lutter contre le piratage...
Il y a un petit problème de Ligue 1, mais ça, on ne va pas parler de foot. Je vais laisser ça au studio de derrière moi, RMC, mais bon...
Une des façons de lutter contre le piratage, et je pense que DAZN l'a compris, c'est ce partenariat que l'on a mis en place, où vous avez toutes les plus belles actions en quasi-direct, 100% des buts, 100% des résumés, qui sont disponibles sur notre application FreeFoot, qui est devenue ces dernières années l'application de référence sur le football. Vous savez que dans le cycle précédent, nous étions diffuseurs de la Ligue 1, nos Free. Désormais, on s'est associé avec DAZN. Et comme on est sympa, vous le savez, pour cette rentrée, cette application, elle est disponible non seulement pour les 23 millions d'abonnés Free, mais on a décidé, pour donner un maximum de visibilité sur la Ligue 1, de mettre à disposition gratuitement cette application pour les abonnés Orange, Bouygues et SFR.
C'est Noël avant l'heure. Merci beaucoup Thomas Reynaud d'avoir été avec nous, directeur général d'Iliad, avec toutes ses ambitions, grandes ambitions pour l'Odyssée 2030.